Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous.
Celui que vous attendez tous, il est arrivé. Je voudrais qu'on applaudisse toutes les stars, tous les animateurs. Nous allons vivre le passage à l'an 2006. Lancez ce décompte, mesdames et messieurs.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et oui, comme à chaque année, Potpourri Show vous propose un tour du monde avec ses correspondants. Quels sont les succès des chansons du monde francophone en 2018? Quelles sont les personnalités francophones en Ontario, Canada ou dans le monde? Quels sont vos coups de cœur et vos coups de gueule en 2018? À la veille du nouvel an, la nostalgie s'entremêle à la fébrilité du renouveau qu'inspire le 1er janvier 2019. Du 23 au 30 décembre, le tour du monde des correspondants. Une édition inédite avec DJ, invités surprises, des nouveaux correspondants d'Haïti, des nouvelles voix et des Antilles françaises, de l'Europe bien sûr, et du Canada, ainsi que le continent africain qu'on n'oublie pas. 23, 30 décembre, le tour du monde des correspondants. Soyez parmi nos invités VIP du temps des fêtes sur CUT 89,5 FM. Le tour du monde des correspondants, ça démarre aujourd'hui et dimanche prochain. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de la radio vous souhaite de bons vœux et joyeuses fêtes.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance.
Sur France,
France
Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Eh ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Assis sur sa cheminée, sous sa sapin est passé chez Soch en chaussons.
Les défis Soch.
Ce Père Noël s'échange ses chaussons sur sa cheminée, passe chez Soch sans souci. Assis sur sa cheminée, sous sa sapin est passé chez Soch en chaussons. Il sort de sa cheminée, assis sur son sapin, sans se soucier de ses chaussons, en passant chez Soch.
Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces chausses? Découvrez la super promo mobile de Noël sur Soch.fr.
Soch.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tout.
Alors, bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai
ici,
autour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Toute l'équipe de CUT 89,5 FM et Potpourri Show vous accueille chaleureusement et vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, merci mille fois à vous tous, madame, monsieur, qui nous écoutez un peu partout à travers la planète et particulièrement à ceux qui contribuent financièrement pour la présence de notre voix à l'antenne. Merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, un menu spécial en ce dimanche 23 décembre 2018. Émission spéciale avec nos correspondants, partenaires et DJ qui nous attendent un peu partout à travers la planète. L'ingénieur du son DJ devra assister de notre co-animateur, coproducteur, et oui, stagiaire Sloan Ballan du collège Glendon. Merci mille fois. Production et animation, votre serviteur Eric Adair sur www.cut.fm et pour télécharger nos émissions tout au long de l'année, tout au long de la journée, quand vous le voulez, où que vous soyez, www.popourrichaud.com. Et comme chaque année, la rédaction fait un retour sur l'actualité des 12 derniers mois. Une émission qui s'annonce colorée, humoristique, avec des invités surprises, de nombreux DJ, la compile des Gilets jaunes pour assurer une ambiance ultra festive. Est-ce que nous avons un chef aussi au studio aujourd'hui avec nous? Ah, peut-être parmi nos invités, qui sait? Ils sont en train de préparer leur petit plat, leur menu traditionnel du temps des fêtes. On verra ça, rétrospective de l'année 2018 en musique, aujourd'hui et dimanche prochain. Et quelle est cette publicité de Noël à l'aéroport d'Heathrow? Vous avez vu le cafouillage avec les drones. Eh oui, c'est une publicité de Noël qui nous fait fondre de rire. On en parle. Qui dit Noël dit veillée. Qui dit veillée dit conte. Mais à l'heure des réseaux sociaux, que reste-t-il de la tradition des contes de Noël? À quoi ressemble le conte contemporain? Quels sont les événements et les personnalités qui ont marqué, d'après vous, cette année 2018? Et quels sont les coups de gueule, les coups de cœur, les citrons qu'on doit peut-être nommer ou donner ou assigner à quelques politiciens du coin, de la place? Vous êtes seul ou nouveau immigrant et vous demeurez dans la région de Toronto? Eh bien, il y a des bons samaritains, oui, tenez-vous bien, il y a des bons lutins. De grâce aux French Fridays qui organisent réveillon annuel des orphelins lundi, donc demain le 24 décembre. Et donc on aura quelqu'un qui nous en donnera plus de détails à ne pas rater. Donc si vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des amis qui viennent d'arriver à Toronto, ils sont malades, ils ont le blues de l'hiver comme on dit, ou des temps des fêtes, c'est le moment demain le 24 décembre. Nos invités, surprises, correspondants, nouveaux correspondants, nouvelle voix, professeur Stéphanie Chouinard, qui est professeur à l'école militaire à Kingston. Elle sera des nôtres, elle est politologue, elle est aussi sur toutes les radios et les télévisions, en anglais, en français. Elle défend la cause des francophones, bravo, elle sera des nôtres. Elle nous attend. Et professeur Nicola D'Ambrosio en Italie qui nous attend. Il est à la retraite maintenant, mais il nous écoute régulièrement. Il va nous brosser un tableau sur le bilan de l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Où va l'Europe? Omed Lamy, qui est-il? Vous connaissez un Haïtien, mon cher ami Sloane Ballant, bonjour. Il est tout enchanté pour le temps des fêtes. Vous allez quoi là, au bal? Le bal du dimanche, du temps des fêtes? Vous avez préparé vos chansons de Noël, vos cantiques? Et la famille alors? Et pourquoi sommes-nous pas invités? Qu'est-ce que vous allez cuisiner comme ça ce soir? Ou demain, à la veille du temps des fêtes? Mais répondez-moi, bon sang! Monsieur Sloane Ballant, bonjour et bienvenue. Alors, téléphonez à tous ces gens-là pour leur dire qu'on va les appeler. J'ai mis l'heure à côté. Alors, qui est ce monsieur Obed Lamy? Eh bien, vous savez, monsieur Sloane Ballant, nous avons reçu plus de 1600 vues, likes, sur notre page Facebook du jamais vu, hein? On a battu le record. Alors, Obed Lamy, il est en direct à Port-au-Prince, éditeur en chef, jeune encore, hein, chez Info Citoyen Haïti, nouveau correspondant, ne pas rater, dans la première heure d'ailleurs. Monsieur Thomas Imbusa, qui est à l'Alliance Française et membre du club RFI à Kampala, Ouganda. Si vous nous écoutez sur Internet, répondez à notre petite question, notre message de ce matin. Je sais qu'il y a un décalage horaire, c'est ça le direct. Et monsieur Zefred, oui, il est membre de French Fridays, co-organisateur de ce réveillon pour les orphelins demain. Il est aussi cinéaste, il est originaire de France, il est chroniqueur au journal Express de Toronto, il fait des choses très intéressantes. Merci mille fois. Je vais passer directement au buzz, les buzz de nos médias partenaires. Au moins 222 personnes ont été tuées et plus de 800 ont été blessés à la suite d'un tsunami qui a déferlé sur les plages du détroit de la Sonde entre les îles indonésiennes de Java et de Sumatra. Ce bilan provisoire risque de s'alourdir, nous dit-on. Et cela me rappelle étrangement de mauvais souvenirs, hein, du tsunami meurtrier de 2024. Je sais, je me souviendrai toujours où j'étais, l'île de Saint-Martin. Eh oui, 2024, c'était un tsunami provoqué par un séisme de 9,3 au large de Sumatra qui avait tué 220 000 personnes sur les côtes de l'océan Indien. On n'oublie pas, bien sûr, toutes ces victimes, surtout à l'approche des fêtes. Le Sénat américain met fin à ses travaux en pleine paralysie de l'État. C'est M. Trump qui en est le grand responsable, nous dit-on. Gilets jaunes en France, la mobilisation s'essouffle un peu à Paris, mais le mouvement de résistance persiste. Haïti, Radio Kiskeya, sise à la rue Villemenet, Bois-Verna, a été ravagée par un incendie dans la soirée du vendredi 21 décembre. Par ailleurs, de nombreux riverains fustigent le fait que les sapeurs-pompiers soient arrivés plus d'une heure après l'éclatement du feu. Selon plusieurs d'entre eux, c'est l'insouciance des autorités qui est à la base de ces dégâts qui auraient pu être évités ou minimisés. L'île Maurice, poste du cyclone Silida. Eh oui, post-mortem, des voyageurs dans le flou, le chaos total après l'ouragan. C'est en ces termes que les passagers qui devaient partir pour l'île Rodrigue ce dimanche 23 décembre qualifient la situation à l'aéroport Sousagar-Ramgoulam. Mais du côté d'Air Mauritius, on affirme que les informations nécessaires ont été communiquées aux voyageurs. Au Tchad, le président français lance à l'idée d'une banque des femmes africaines. Il est en passage pour visiter les forces armées françaises dans ce pays. Madagascar, l'équipe de Ravalomanana met sur pied une cellule de crise. RDC, la Commission électorale nationale indépendante, CENI a clos samedi l'opération d'accréditation des témoins des partis des regroupements politiques pour les élections reportées au 30 décembre prochain. D'ailleurs, les élections devaient avoir lieu aujourd'hui. C'est reporté pour dimanche prochain. Tout est allé vite au niveau des antennes de la CENI, nous dit-on. Crise linguistique après l'Ontario. Robert Gauvin, député conservateur du Nouveau-Brunswick, est passé proche de démissionner cette semaine. La raison ? Hein ? La raison ? Le gouvernement veut permettre de l'embauche d'ambulanciers unilingues, anglais seulement, dans des postes bilingues. Et donc, une année sombre pour des milliers de francophones partout au pays. Et pour nous joindre tout au long de l'émission, 416-946-7000, si vous êtes à l'extérieur de notre zone de diffusion ou encore à l'étranger, popourri@cut.fm. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de joyeuses fêtes. À tous nos amis haïtiens qui nous écoutent en ligne, on vous souhaite un joyeux Noël. Noël, Noël. L'esprit et l'ambiance d'Haïti, bien sûr. 2018, une année riche en rencontres et événements pour Popourri Show. Et dans le froid et la neige, certains tels que Marcel Lynn, qui nous écoute peut-être sur Internet.
Bonjour Marcel.
Et ma chère sœur Corinne se trouve en ce moment sous le soleil des tropiques avec un soleil tapant. Eh oui, sous les cocotiers, je vous souhaite un joyeux Noël et aussi joyeux Noël à tous nos correspondants, correspondantes et partenaires du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, de l'océan Indien et des Antilles, bien sûr. Vous acceptez de partager votre temps, votre expertise ce dimanche et dimanche prochain pour mettre un peu de couleur, de partage, de gaieté et d'amour, de tendresse dans la vie de centaines et de milliers d'auditeurs qui nous écoutent ici dans la région de Toronto, de l'Ontario, du Canada et du monde. C'est un de nos plus beaux cadeaux. Merci, merci, merci.
Oh, 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 année ça, en pile cadeau moins beauté sous Yoncel Radio. Intermix, cadeau plus musique égale 100% Noël. 100% Noël. Intermix, la radio du Père Noël.
Et oui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous recevons pour la première fois un nouveau correspondant, Obed Lamy, éditeur en chef du nouveau magazine Info Citoyen d'Haïti. Malgré la crise sans précédent qui touche à l'essence même de la fonction du journaliste en Haïti, notre jeune collaborateur a un parcours très impressionnant. Il a travaillé au quotidien Le National puis Loop Haïti. Il a également collaboré avec des médias étrangers dont Radio-Canada, Information, RDI et Voice of America. Auparavant, il a cumulé 4 années d'expérience dans l'enseignement, licencié en gestion des affaires. Il a fait également des études en communication sociale à l'Université d'Haïti. Cette nouvelle collaboration, madame, monsieur, s'inscrit naturellement dans notre mission de fidéliser un auditoire en expansion constante. C'est pour cette raison que chaque jour, Radio France Internationale consacre un reportage ou une interview spécifiquement consacrée à Haïti. Nous remercions chaleureusement Amélie Baron qui travaille depuis novembre 2009 comme correspondante de RFI en Haïti. Et nous sommes ravis d'accueillir notre invité pour la première fois, collaborateur, correspondant direct de Port-au-Prince, Obed Lamy, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Popourri.
Et oui, heureux de vous accueillir officiellement et j'espère que vous serez des nôtres pour de nombreuses années. Le paysage de l'audiovisuel n'est pas si pauvre en Haïti quand on le compare avec d'autres pays en voie de développement. Or, un nouveau journal, votre journal, Info Citoyen, qui vise à expliquer l'actualité à vos lecteurs, citoyens de demain, forum citoyen, gouvernance, les grands dossiers. Pourquoi maintenant ce nouveau médium?
Oui, effectivement, Info Citoyen est né en avril de cette année, en avril 2018, pour répondre à un besoin particulier. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, le paysage médiatique haïtien est très rempli. Il y a beaucoup de médias, surtout beaucoup de nouveaux médias sur les réseaux sociaux. Et mais il était nécessaire de créer Info Citoyen parce que nous nous proposons de faire principalement deux choses. C'est d'abord de donner des informations pratiques, notamment sur les services publics, parce que le problème qui existe aujourd'hui en Haïti, c'est que pour avoir accès aux services publics et même dans certaines institutions privées, c'est une casse-tête pour le citoyen, même celui qui est le plus cultivé, qui est très éduqué, parce que les informations ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, pour faire renouveler son passeport, pour obtenir un permis de conduire, ou bien pour faire corriger une erreur dans un acte de naissance. Donc nous, on se propose d'aller chercher ces informations dans les institutions et faire des interviews avec des experts. Et pour les traiter, il est diffusé dans un langage très accessible et sous plusieurs formats. Et ensuite, notre travail, c'est aussi d'expliquer l'actualité. Parce que, effectivement, de plus en plus de gens en Haïti ont accès à l'information à travers les médias. Et il y a beaucoup de bulletins de nouvelles, il y a beaucoup d'interventions de politiciens dans les médias. Mais on n'a pas l'impression, en tout cas à travers mon expérience de journaliste pendant ces 4 dernières années, je n'ai pas toujours eu l'impression que les gens comprennent le fonctionnement de la politique, de la société. Par exemple, quand il y a un débat au Parlement, quand on doit nommer un premier ministre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opinions qui traversent ou bien qui sont exprimées dans les médias, mais on n'est pas forcément certain que les citoyens comprennent le processus, ce que dit la loi. Donc c'est ce qu'on fait. D'abord, on donne des informations pratiques et après, on explique l'actualité, les sujets qui sont brûlants dans les médias. Et c'est un travail aussi d'éducation civique, puisqu'on apprend aux citoyens leurs droits, leurs devoirs, afin qu'ils puissent vraiment participer à la construction de la démocratie. Donc, pour nous, il était vraiment nécessaire.
Et ce qu'il faut aussi rappeler aux gens, pour la majeure partie de vos articles, que j'aime bien, le format, le site web, vous faites un beau travail, c'est surtout en créole, parce qu'il faut dire aux gens, aux francophones, aux francophiles qui nous écoutent dans la région, la grande région de Toronto. Vous connaissez un peu Toronto, l'Ontario, le Canada?
Je connais un peu mieux le Québec, parce que j'ai beaucoup d'amis qui habitent au Québec, mais j'ai quelques connaissances qui sont aussi à Toronto.
Ils sont nombreux là qui vous écoute. Alors, il faut bien dire que c'est surtout en créole haïtien, qui est une langue quand même officielle.
C'est la première langue. Oui, c'était nécessaire de le faire en créole parce que, effectivement, la totalité des Haïtiens parlent le créole, en tout cas ceux qui vivent en Haïti. Donc, quand on veut faire une communication qui soit très efficace, il faut le faire en créole.
Alors,
mais on n'exclut pas le français parce que ce qui existe, c'est un dilemme parce que l'administration publique fonctionne en français. C'est vrai qu'on veut expliquer aux gens les procédures, etc. Mais ce qu'on veut faire, c'est à travers le site Internet de mettre, par exemple, des concepts en français et les expliquer. Parce que je peux vous expliquer quelque chose en créole et quand vous arrivez à l'institution ou bien à l'administration publique et on vous dit le terme français, par exemple, si je vous dis crédit d'impôt, le terme n'existe qu'en français. Je peux l'expliquer en créole, mais je dois écrire, par exemple, soit à travers les graphiques que nous proposons ou bien à travers le site web, on le met entre guillemets, donc en français, mais pour nous c'est très important de le faire en créole parce que même les gens qui parlent français en Haïti, ils parlent d'abord et avant tout le créole, donc étant donné qu'on fait un travail tout public, on fait vraiment de l'éducation populaire, on le fait en créole, mais c'est pas qu'on exclut quelle que soit la langue. D'ailleurs, à l'avenir, on pense, et par exemple, produire aussi des informations de ce genre pour la diaspora haïtienne, que ce soit les gens qui sont, les compatriotes qui sont et en Amérique du Nord, qui sont aux États-Unis, au Canada ou bien en Europe, parce que eux aussi, certaines fois, ils sont à la recherche de services et à travers l'administration haïtienne. Et ces informations ne sont pas forcément disponibles.
Obed Lamy, madame, monsieur, avec nous, il est éditeur en chef chez Info Citoyen. Vous êtes un peu le fondateur de cette...
Oui, c'est avec une collègue qui s'appelle Edine Célestin, nous étions deux.
Alors ça, elle est une personne quand même qu'il faut absolument rencontrer, connaître. Elle est photojournaliste, militante des droits humains. Elle a collaboré avec Le Nouvelliste, c'est un journal très connu en Haïti, et d'autres médias étrangers dans le monde, Mediapart, s'il vous plaît, Round Earth Media et New York Magazine, s'il vous plaît. Et son travail a déjà été présenté au festival Visa pour l'image en France et Célébration Haïti à New York. Elle a cofondé le collectif haïtien de photographes K2D. Elle a étudié le travail social à l'Université d'État d'Haïti. Une femme, je veux dire, très professionnelle et très bien calée dans son domaine. Et vous pouvez voir sa photo, d'ailleurs, si vous allez sur le site de... Je vais donner tout à l'heure le...
Info Citoyen. Il faut dire les gens que le site est en créole. Info Citoyen, c'est E-N-F-O. Et puis, espace. Citoyen, FITWAYENT, en créole.
Oui, mais si vous tapez le nom de notre vedette du jour, madame, monsieur, Obed Lamy, O-B-E-D-L-A-M-Y, Y, vous allez tomber, bien sûr, sur Info Citoyen. Alors, justement, vous avez parlé, il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler aujourd'hui, mais on n'a pas le temps parce qu'on fait un tour du monde. D'ailleurs, pendant toute l'année 2019, votre petit devoir que le Père Noël vous donne, c'est justement de nous brosser un tableau, de décortiquer un peu la situation sociale, politique, les groupes de résistance. Je sais qu'il y a encore des problèmes au niveau politique. Vous savez, tout ça nous intéresse. De tout cœur. D'ailleurs, Radio France Internationale a pied à terre, à Port-au-Prince.
Et on a des émissions. Avec la correspondante Amélie Baron.
Justement. Alors, donc, nous, ici à Toronto, chaque fois, il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes ou une crise quelque part pour parler de ce pays. Il faut toujours en parler, faire ça. Ça fait partie de notre quotidien, de notre intérêt en tant que francophone, en tant que lecteur, en tant que locuteur francophone, créole. Il nous faut s'intéresser à ce qui se passe à travers le monde. Et Haïti, c'est très important parce que nous avons un bassin aussi géographiquement parlant. C'est important, mais aussi nous avons une population très, très, très intéressée par tout ce qui se passe là-bas. Il y a des Canadiens, comme vous savez, qui investissent dans beaucoup d'œuvres caricatives, hein, par exemple.
Et, et c'est bien que vous le dites parce que Haïti n'est pas que les crises sociopolitiques, mais c'est aussi une vie culturelle qui est très animée. Exactement. Beaucoup de festivals s'organisent depuis le début de l'année jusqu'à décembre. Il y a plein d'événements et culturels.
Alors, quel est le moral des Haïtiens à l'approche de Noël, cher ami?
Eh bien, les périodes de fin d'année sont très, 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 très animées en Haïti, même si cette année, la situation est un petit peu particulière avec les troubles sociopolitiques et qu'on a connus jusqu'à novembre récemment. Et puis la situation économique qui est vraiment très difficile. Il y a la décote de la goudre, il y a le chômage. Le gouvernement a tenté d'apaiser la colère de la population et à travers des programmes sociaux qu'ils ont annoncés. D'ailleurs, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière et dans votre émission. Mais ça n'a pas forcément résolu le problème.
Ce qui nous intéresse, grâce à nos amis de Reporters sans frontières, le bilan de la presse 2018, on va en parler la semaine prochaine. 80 journalistes tués, 340 détenus, 60 en otage dans le monde, même si Haïti n'a pas été parmi les pays qui fait partie de ce fléau, mais il y a quand même eu un journaliste qui a été kidnappé ou disparu. On ne sait pas toujours de son sort depuis le mois de mai dernier.
C'était en mars, le 14 mars, c'est Vladimir Le Gagnon, son nom propre, et c'est un photojournaliste. Il était mon collègue à Loop Haïti,
que
je connaissais très bien, on faisait des projets ensemble. Il est allé faire un reportage à Grand Ravine. Grand Ravine, il faut dire, c'est un quartier populaire qui est au sud de Port-au-Prince, qui est habité par des gangs, et c'est le théâtre et d'affrontement entre plusieurs gangs armés. Alors, il n'est jamais rentré chez lui depuis ce 14 mars. Sa femme a déposé une plainte à la justice et jusqu'à maintenant, et ni la police ni la justice n'ont toujours pas annoncé quelles sont les avancées de cette enquête. Aux dernières nouvelles, la police a annoncé avoir trouvé des ossements sur la Seine, en tout cas dans le quartier où le crime serait déroulé. Et on a été faire un test ADN sur ces ossements aux États-Unis. Mais jusqu'à maintenant, le résultat n'a jamais été annoncé.
Incroyable.
Et cette situation, en tout cas, a fait écho dans la presse internationale. Et Reporters sans frontières, des journalistes de RFI aussi, ont essayé d'alimenter le mouvement à travers les réseaux sociaux pour demander des explications sur la disparition de ce journaliste.
Donc, c'est risqué quand même, quand on est journaliste et on ne peut pas nécessairement tout dire et tout faire.
Oui. Justement, et la disparition de Vladimir vient en tout cas nous faire comprendre deux choses. C'est qu'il est encore très fragile d'exercer le métier de journaliste en Haïti. Et puis, il y a le règne de l'impunité. Parce que jusqu'à présent, la justice n'arrive pas à faire son travail. Et la police non plus, pour au moins, ne serait-ce qu'au moins, expliquer ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si c'est une banalisation de ce cas ou bien c'est une incapacité vraiment de faire avancer cette enquête. En tout cas, cela nous dit que Vladimir a disparu et ses assassins continuent de vivre leur vie et sa famille et nous autres journalistes qui sommes encore très affectés par cette disparition n'arrivons toujours pas à trouver des explications sur ce qui s'est passé.
Alors, courage, courage, et malgré tout, on vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, et pour cette, c'est le baptême, hein, c'est le baptême de oui. Obed Lamy à l'émission. Vous avez aimé votre expérience, première expérience?
Oui, c'était une très belle expérience, j'ai été très excité de oui. vous rencontrer, oui. j'ai vu les posts sur Facebook, il y a beaucoup d'amis qui m'ont écrit pour me féliciter et pour m'encourager, et j'espère qu'on va avoir vraiment...
Alors, nous terminer en disant un petit mot en créole, hein. Moi aussi, mon cousin peu créole, mais c'est un créole dans l'océan Indien, Seychelles, l'île Maurice, La Réunion, donc c'est pas le même okay. créole, mais où capable que vous un petit peu créole et souhaite joyeux Noël et bonne année à tout Bandimoun qui peut écouter nous et surtout la population haïtienne là.
Merci parce que nous recevons notre émission aujourd'hui. Hein, parce que les tous compatriotes haïtiens qui à Toronto ou bien qui n'importe côté dans le Canada ou bien dans le monde là, qui t'attendent nous, nous promettent pour nous toujours informer sur ce qui a passé en Haïti, pas seulement les problèmes, mais aussi expliquer ou bien faire écho des initiatives très positives de la vie culturelle et sociale d'Haïti, en tout cas des choses positives aussi. Et nous souhaitons toujours rester branchés. Et il y a une expression créole que les étrangers oui. connaissent et très facilement. Pas passé, n'a boulé.
Oui.
La prochaine fois quand je vais intervenir, oui. je vous dirai ça qui passé et oui. vous répondrez n'a boulé.
N'a boulé. Écoute, ça nous, passé, en chœur, on va vous chanter une petite chanson. Allez. On vous souhaite tout le bonheur du monde, cher ami Obed Lamy. Merci beaucoup et bonne année. On se reparle en 2019. Au revoir.
Merci beaucoup. Très bonne fin de journée.
CIUT 89.5, Toronto.
C'est bon. L'Afrique. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent riche matériel, touristique, panoramique. Très bien. Mais malgré son immense richesse, nos pays sont victimes du sous-développé, des endettés. Vers l'Occident, nous passons notre temps à faire des emprunts financiers pour soi-disant venir faire des investisseurs. Mais une fois que cet argent arrive dans nos pays, il est utilisé individuellement au lieu d'être utilisé collectivement. Musique!
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Hey, allô, bon, on en est où du chiffre d'affaires là, hein? Les gens achètent des cadeaux ou pas? Bah bougez-vous, vendez-leur du rêve, des rennes, de la neige, des merneaux à poil, faites quelque chose! Et même moi, le patron des Galeries Lafayette, hein, président de l'APNC, hein, l'Association des Pères Noël Capitalistes. Je fais le Père Noël devant mon magasin. Hein. Bon, je ressemble plus à un vendeur d'artis, mais ça marche quand même. Ouais, et puis tout le monde me prend pour Omar du service après-vente, ça va. Oui, je sais, un Père Noël noir, c'est pas crédible, d'accord. Ouais. C'est un peu comme si Francis Lalanne chantait du zouk. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Tu m'as pris pour le... Ah merde, putain. Tu veux une PlayStation 3? T'as 500 euros sur toi, là, ou...
Oui, Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle, vous écoutez une émission spéciale Tour du Monde de fin d'année 2018 avec nos invités surprises, des animateurs, des professeurs, des analystes politiques, oui, il faut le dire, des jeunes journalistes d'Haïti. Il est bien, hein, ce monsieur Obed Lamy, mon cher Sloan. Voilà, vous avez un compatriote, vous devez être content là. Hein. Alors, on dit merci mille fois à tous ces Haïtiens qui nous écoutent en ligne. Ils sont plus de 1600 personnes hein, qui ont regardé, aimé, commenté sur notre page. Et je vous rappelle encore une fois, pour ceux et celles qui se sentent un peu seuls, pour les personnes les plus vulnérables, vous ne savez pas quoi faire, demain soir, à la veille de Noël, il y a quelque chose de très spécial qui se passe à nouveau à Toronto. C'est un rendez-vous annuel, hein, le fameux réveillon de Noël de French Fridays. Et nous aurons quelqu'un qui va nous en parler, Zeph, vers la fin de l'émission. Cela se passe le 24 décembre. On vous invite à déguster de délicieuses spécialités au Korean Village, institution torontoise dont la réputation n'est plus approuvée dans le coin de Bathurst et la rue Bloor, ici même à Toronto. Dans un instant, nous allons descendre à l'Europe. L'Europe, où est passée l'Europe? Où va l'Europe? Quel bilan avec la crise qui sévit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal et le Brexit qui fait mal à Theresa May? Qui a failli laisser ses plumes au Parlement britannique la semaine dernière. En quoi ce projet permettra notamment à la Grande-Bretagne de conserver un ancrage européen en dépit du Brexit? L'actualité européenne est pour le moins mouvementée entre montée des populismes, Brexit et guerre commerciale avec les États-Unis. Où va l'Europe? Quel bilan vu par notre spécialiste, écrivain, professeur, grand voyageur, j'étais pour dire grand visionnaire aussi, peut-être, et notre correspondant à notre émission depuis plus de 10 ans, 12 ans, je pense, dans un instant. Vous voyez là, tous ces petits plats, mon cher Sloan. Du civet au lapin, canard grillé, du poisson, spécialité haïtienne. Mon Dieu, il y en a pour tous les goûts. Oh, le brunch, le brunch, le brunch. C'est pour quand le brunch? Eh oui, buongiorno, professeur Nicola D'Ambrioso.
Buongiorno, Eric.
Come va?
Va bene.
Alors, l'Europe, mon cher ami, depuis qu'on en parle, depuis qu'on se connaît, il s'est passé des choses en Europe.
Oui, en effet, il y a beaucoup d'éléments qui sont malheureusement négatifs, mais il y a aussi quelques éléments d'espoir.
Ah, et oui.
C'est-à-dire, pour les éléments négatifs, vous avez bien dit tout à l'heure, il y a le problème de Brexit, Theresa May. Mais il y a aussi un autre problème, elle a beaucoup de problèmes, elle voulait quitter l'Europe, mais elle a beaucoup de problèmes, surtout donc les Écossais, avec les problèmes donc irlandais, et même les Anglais ne sont pas tout à fait convaincus qu'il vaut mieux quitter l'Europe. Donc, ça c'est un élément très grave, parce que l'Angleterre devrait quitter donc l'Europe.
Et il n'y a pas personne encore qui veut monter un mur, construire un mur entre
oui.
L'Angleterre et le reste de l'Europe, non?
Non, il n'y a que Trump.
Ben, vous savez, tout est fermé. Hein? Il n'y a personne qui bouge sur la colline à la Maison-Blanche et les fonctionnaires au niveau fédéral sont bloqués parce que...
Il y a le shut-up. Oui.
Ah ben oui, le shut-up.
Shut up, oui,
j'adore d'accord. Ça. Même en France, dans les médias français, hier, j'ai regardé ça. Le shut up en Washington, mesdames, messieurs, le shut up.
Voilà.
On avance, hein, en francophonie, on avance, on fait du progrès.
Oui. Et nous avons eu d'autres problèmes parce que il faut pas oublier tout ce qui s'est passé à Strasbourg.
Oui.
L'attentat à Strasbourg.
En effet.
Et en plus, tout ce qui s'est passé à Katowice, c'est-à-dire en Pologne, c'est-à-dire, cela faisait suite aux accords de Paris, c'est-à-dire, il fallait lutter contre le changement climatique, donc il y avait des accords. Et la conférence n'a pas donné de très bons résultats. En plus, il y a le problème, vous avez dit, bien dit, qu'il y a le, nous avons le problème des eurosceptiques, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui prônent donc une Europe des nations, c'est-à-dire une juste position de pays plutôt qu'une intégration des pays, c'est-à-dire une Europe fédéraliste. Et donc, c'est un grand problème parce que nous avons en Italie, nous avons la Lega, donc qui est xénophobe. Nous avons donc en Autriche, donc, gouvernement de droite. Orban, donc, en Hongrie. La Pologne, à droite. Aux dernières élections en Suède, donc, les pays et les partis eurosceptiques ont eu presque 18% des voix. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment négatifs. Mais il y a quand même deux éléments qui, selon moi, sont positifs. D'abord, on a remarqué que les jeunes under 26, au-dessous de 26 ans, 71% des jeunes sont en faveur de l'Europe. C'est-à-dire que les jeunes, par exemple les Italiens, les jeunes, avant de sentir italiens, ils se sentent européens, ils sont méditerranéens. Donc ce qui est très important, cela signifie que l'avenir est des jeunes générations, non pas des adultes. Et un autre élément, on a remarqué que les entreprises allemandes ont besoin de main-d'œuvre, imaginez.
En effet.
Malgré donc le déferlement de l'immigration. Mais ils ont compris qu'il faut qualifier, c'est-à-dire les immigrés. Quand on parle d'intégration, c'est un terme, disons, omnicompréhensif, c'est-à-dire c'est un terme général. Mais il faudrait parler aussi de qualification. C'est-à-dire si on réussit à qualifier les jeunes, il y a des entreprises, et paraît-il, 1 200 000 postes de travail sont disponibles, mais pour une main-d'œuvre qui est qualifiée, pour des gens qui connaissent donc un métier, une profession, une activité, qui sont capables de s'insérer dans le tissu économique d'un pays. Parce que le travail est très important, c'est une forme donc de solidarité. Et comment pouvez-vous ne pas accepter quelqu'un qui est solidaire de votre pays? C'est ça ma question.
Je suis avec le professeur Nicolas D'Ambrosio, ancien universitaire, aussi traducteur officiel des œuvres de notre ami professeur Idi Bouraoui, d'ailleurs, qui a été à l'émission récemment. Et nous sommes tellement contents que vous soyez avec nous. Et justement, quand on a vu la chancelière allemande Angela Merkel qui était en très grave difficulté sur la question migratoire, il y a une dame en France, pour ne pas la nommer, Marine Le Pen, qui s'est félicitée, qui a dit « Vous voyez, ça s'en vient. » Parce que justement, personne ne veut des immigrants. C'est ce que vous venez de nous dire. On ne fait pas la différence, assez de différence dans les politiques migratoires quand on est en campagne électorale pour démystifier les bons immigrants, les immigrants qualifiés qu'on veut avoir sur notre territoire. Ce n'est pas les clandestins, les terroristes. Et voilà. Malheureusement, il va avoir toujours... D'ailleurs, il y a des gens qui sont en France, nés en France. Le type qui a fait cet attentat à Strasbourg, c'est un Français. Né sur le sol français. Donc, c'est difficile d'aller, de mettre le filet, si vous voulez, et d'aller repêcher des terroristes quand ils sont des fois natifs du Canada ou encore des États-Unis ou de l'Europe.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais là aussi, par exemple, même en Italie, on a remarqué, chez nous, nous avons un chômage qui va de 9 à 10% et aussi de presque jusqu'à 20%. Donc, mais on a remarqué que là aussi, en Italie, il y a des postes de travail qui ne sont pas occupés. Parce que, alors, c'est ça le mot très important. La coopération avec les pays, les autres pays, surtout les pays les plus pauvres, pour les aider même à former les jeunes. Et en plus, lorsqu'ils viennent chez nous, il faut leur donner la possibilité de s'insérer dans nos sociétés. Mais avec des choses qui sont pratiques, c'est-à-dire il faut qu'ils apprennent un métier, qu'ils perfectionnent les activités en Afrique, qu'ils faisaient en Afrique, qu'ils exerçaient en Afrique. Donc cela, c'est très important si nous voulons faire quelque chose pour harmoniser donc la présence même des immigrés sur nos territoires.
Alors, les pays de l'Union européenne ont présenté récemment le budget 2019 à la Commission de Bruxelles. Une étape très importante pour certains États membres, à commencer par l'Italie et son gouvernement populiste, le projet présenté comme le budget du peuple, qui fait la part belle aux dépenses sociales, inquiète énormément les Européens et nos confrères à Radio France Internationale Paris, titré justement récemment sur leur site « Italie, le budget qui fait peur à l'Europe ». Pourquoi l'Europe devrait avoir peur et est-ce que l'Europe a un avenir ?
Donc, oui, parce que ce qu'on appelle, ils disent, donc, ils parlent du peuple. Souvent, on parle au nom du peuple pour des politiques qui sont xénophobes ou quelquefois pour des, on fait des choses qui vont contre le peuple. Par exemple, cette manœuvre. Donc, il n'y a rien pour les investissements. Il n'y a rien pour la recherche. Il n'y a rien, par exemple, pour la formation, pour les écoles, l'université, par exemple. Alors, comment voulez-vous donc aider les jeunes à s'insérer dans le monde du travail si vous n'insistez pas sur la formation, sur la recherche ? Ce sont des éléments qui sont très, très importants. Pour ce qui concerne les immigrés, qu'est-ce qu'on fait ? On les met dans la rue, un point, c'est tout. Et alors, il y a des gens, des photographes qui prennent des photos, vous dites, ah voilà, on a libéré, voilà, entre guillemets, l'Italie des immigrés. Mais ils sont là, dans la rue. Mais alors, comment vous voulez résoudre les problèmes comme ça ? Ce n'est pas possible. Il ne faut pas avoir donc une attitude idéologique vis-à-vis des immigrés. Il faut avoir une attitude plus pragmatique, c'est-à-dire que vous leur donnez la possibilité de s'intégrer grâce à la formation, grâce au travail. Et bien sûr, il faut que tout le monde respecte les lois sur notre territoire, à partir des Italiens qui doivent donner l'exemple. Oui. D'abord, les Italiens doivent respecter les lois italiennes, et puis les immigrés, les gens qui sont chez nous.
Alors, le mouvement des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous l'avez suivi en France, se multiplie. Hein. On voit, par exemple, il y a des Gilets rouges en Tunisie, et là, j'ai vu cette semaine, oui, madame, monsieur, croyez-moi, j'ai vu des Gilets jaunes en Portugal. Au Portugal. Oui. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des gilets bleus ou blancs chez vous bientôt. En tout cas, Emmanuel Macron, président français, a reçu mercredi dernier une centaine de chefs d'entreprise. Objectif, les mobiliser en faveur du pouvoir d'achat et trouver une issue au mouvement des gilets jaunes. Concernant le populisme, on se demande, par exemple, si on assiste aujourd'hui, d'après vous, cher ami, au retour des années 1930.
Alors, c'est-à-dire que il y a un problème, il y a la crise économique. On a eu la crise économique, et plus en plus, toute la classe moyenne ne réussit plus à s'exprimer, par exemple, en Italie. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, des jeunes architectes, ingénieurs, jeunes médecins, qui n'ont pas de travail.
Ah oui.
C'est ça un problème. Alors, nous, on les forme. Et ils vont à l'étranger, nous en avons beaucoup qui vont à l'étranger chaque année, mais ce sont des gens qui sont très qualifiés qui vont à l'étranger. Alors tout cela, ça crée donc crée beaucoup de problèmes. Des gens qui sont, par exemple, qui voudraient détruire le système plutôt que de miser sur les réformes qui sont nécessaires. Macron, il a décidé d'aider les riches, le 1% qui possède beaucoup d'argent et un revenu très élevé, il n'a pas tenu compte donc des problèmes de la classe ouvrière et de la classe moyenne qui est le moteur de l'économie d'un pays, selon moi.
Alors, revenons à nos moutons. Cecilia Malmström, c'est la commissaire européenne au commerce, qui a accordé une interview exclusive, je pense, à quelques médias européens cette semaine. Et elle en a profité pour tirer le bilan de l'année 2018, bilan mouvementé, selon elle. Et elle dit, Donald Trump est du mauvais côté de l'histoire. Le protectionnisme rend tout le monde plus pauvre. Cela n'a rien de bon pour les classes populaires qu'il prétend protéger. Cela augmentera, d'après elle, les prix et mettra en danger des emplois. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, n'est-ce pas ?
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être il ne faut pas... Il faut faire attention, parce que nous sommes au début d'une guerre commerciale. Mmh. C'est ça la vérité.
C'est peut-être déjà commencé, n'est-ce pas ?
Tout cela, ça crée donc instabilité. L'instabilité est dangereuse, d'abord. Et en plus, il ne faut pas oublier ce que Poutine a dit dernièrement, il y a quelques jours. Il a dit qu'on ne tient pas compte de la possibilité d'une guerre nucléaire. Il y a le risque d'une guerre nucléaire. Donc il faut faire attention, parce que la première guerre mondiale en Italie, c'était une petite guerre donc, locale dans les Balkans. Et en plus, vous savez, il y a le Japon et les États-Unis qui ont participé à la première guerre mondiale en Europe. Donc il faut faire attention, il faut intervenir au bon moment, parce qu'après, ça peut déferler un peu partout. Donc,
selon moi,
Trump, voilà, c'est ça le problème. Il est contre l'écologie, il est contre l'immigration. Pour lui, le problème, c'est que l'économie, elle finance, donc prime, doit primer, c'est ça. Tout le reste ne compte rien. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est grave, c'est tragique.
Oui, alors d'ailleurs, il va y avoir le sommet de Davos en Suisse prochainement, je pense au début de l'année. Et aussi, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique avec les décisions de Trump de se retirer de la Syrie, de l'Afghanistan. Oui. Il perd des alliés très, très forts, même au niveau de l'OTAN, qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Alors, on sait qu'il a quand même des démons qui sont autour de lui avec sa vie privée. Vous êtes peut-être un peu au courant de Mueller, qui est en train de préparer, rédiger un rapport.
Oui,
et
oui.
Selon les dernières informations, pas plus tard que ce matin, on prétend qu'il se pourrait qu'on arrête les gens proches de lui, c'est-à-dire des membres de sa famille, prochainement.
Oui.
Très prochainement. Parce qu'on a déjà arrêté pas mal de gens, enfin ses associés, avocats, conseillers récemment. C'est quand même quelque chose. Hein. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Comment est-ce que tout ça est perçu en Europe et chez vous
en
Italie?
Ah oui, mais c'est perçu très mal. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, donc, Trump? Donc, l'ambassade est passée de Tel Aviv à Jérusalem.
Exactement.
Et vous savez, c'est une déclaration de guerre, ça. C'est une déclaration de guerre. Mais quel est le sens de cela? C'est-à-dire que, voilà, Israël, je te donne des armes. L'ambassade, mon ambassade, je la déplace à Jérusalem, parce que comme ça, Jérusalem est la capitale reconnue, donc, de l'État d'Israël. Mais Israël devient les gendarmes. Les gendarmes, donc, dans cette région. Et comme ça, les États-Unis ne dépensent pas d'argent, il n'y a pas de soldats qui perdent leur vie dans une guerre, etc. Et donc, et voilà, c'est ce qui fait Trump. Ce qui l'intéresse, c'est de dépenser moins d'argent, avoir une certaine influence indirecte, sans rien risquer. Et le rapport bilatéral avec l'Italie, avec l'Allemagne, parce que les États-Unis, c'est grand, l'Italie, c'est petit. Donc, c'est-à-dire qu'il joue la part du lion avec l'Italie, puis avec l'Espagne, avec le Portugal. Et il veut désintégrer même l'Europe. C'est ça le problème. Mais ils ne se rendent pas compte que ça, c'est grave. Ça, c'est tellement grave, tout ça.
Oui. D'ailleurs, il y a Emmanuel Macron qui joue au trouble-fête un peu en disant que peut-être c'est le temps pour l'Europe d'avoir son propre armée, n'est-ce pas?
Oui.
Une armée européenne. Alors, qu'est-ce que vous apprêtez comme ça pour le menu? Je ne sais pas, je suis curieux. Est-ce qu'il y a de la place? On pourrait descendre chez vous demain?
Oui, chez nous. Oui, bien sûr qu'il y a de la place chez nous. Vous savez, pour ce qui concerne le jour, la veille de Noël, chez nous, on ne mange pas de viande.
Ah oui?
Alors, il n'y a que du poisson.
Ah
voilà.
Ben, c'est moi ça, parce que moi, je ne mange pas de viande. J'adore
voilà.
Le crustacé.
Alors, venez tout de suite. Aucun problème. Et nous avons du poisson, beaucoup de poisson. Ouais. Et on mange, par exemple, des légumes frais, des choses comme ça.
Ouais.
Du poisson, etc. Bien sûr, gâteaux. Ouais. Des gâteaux particuliers avec... du sirop de figue.
Ah oui, j'adore. Sirop. Oui, ça nous
fait pas. C'est la pâtisserie avec du sirop de figue que je prépare moi-même avec des figues de la maison, voilà, qu'on a chez nous à la campagne.
On vous dit à toute la famille, à vous, buon Natale.
Grazie, merci beaucoup et je vous remercie.
Écoutez, alors, il y a une petite chorale là, qui est ici en studio. On va vous chanter une petite chanson. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Voilà.
Ah d'accord, merci.
On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Merci.
On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Merci beaucoup, merci Annie.
Allez, merci, joyeux Noël et bonnes et heureuses années. Hein.
Radio Sud de Toronto.
Merci, on se parle en 2019, si vous le voulez bien, cher ami Nicolas
D'Ambrosio. D'accord, ça va bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Arrivederci, arrivederci, au revoir, merci.
Et le don du bonheur. Et le monde est plus beau quand on offre son cœur. Et l'amour nous apprend, à l'aube de l'an nouveau, que Noël est bien plus que le jour des cadeaux. C'est l'occasion d'aimer tous ceux qui nous sont chers, de dîner en famille, en voisins, entre frères. En cette fin d'année, chantons notre bonheur, pour qu'à jamais Noël vive dans notre cœur.
Alors que chante vers le ciel les cloches de la nuit. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère.
C'est la saison du Père Noël. Voilà la 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 la. Mettons nos habits de fête. Voilà la 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 la. Tout en chantant à tue-tête. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la.
Comme une belle étoile qui illumine le sapin de Noël, j'espère que votre vie sera illuminée de bonheur. Joyeux Noël à vous et toute la famille. Joyeux Noël.
En période des fêtes, la publicité ne cesse de nous rappeler qu'on est en période des fêtes.
En cette période de réjouissance, pourquoi ne pas vous offrir une voiture de l'année?
De l'année, le bibou d'enfant.
Le regroupement des concessionnaires du village vous invite à venir voir les Bethlehem W. Ou encore chez Nissan, offrez une Altima à Noël.
Altima à Noël, quand tu descendras du ciel.
Et pourquoi ne pas passer le jour de l'an avec une Honda Prélude? Mais gare aux abus.
Honda Prélude, maudite belle grosse.
Ou allez chez votre concessionnaire Hyundai et offrez à Noël une Hyundai de l'année.
Hyundai de l'année, Hyundai de l'année.
Mais tous les concessionnaires offrent aussi, pour faire de beaux cadeaux, un choix de chars usagés.
Chars usagés, rassemblons-nous.
À la veille du jour de l'an, offrez-leur une Timex Indiglo et trinquez à la nouvelle année.
Indiglo, 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 Indiglo. Il est des nôtres.
Ce message est retenu et payé par le ministère du Revenu. Avant Noël, avez-vous envoyé vos acomptes provisionnels? Non? T'es faite. Et avez-vous conservé vos reçus d'achat pour vos rapports d'impôts? Non? T'es faite. Et êtes-vous travailleur autonome qui gagne plus de 50 000 par année? Oui? T'es faite. Le ministère du Revenu vous souhaite un bon temps, t'es faite.
Voici un message de votre municipalité qui vous recommande d'être prudent cet hiver et de ne pas vous promener seul dans les parcs, car même dans le froid, il peut y avoir des exhibitionnistes.
Oh! J'en aime belle, j'en aime belle, j'en aime belle, oh oui!
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Is Costa Rica the most beautiful country in the world? With its soft sand beaches, warm Pacific waters, bountiful nature, and amazing people, it just might be. Serenity Boutique Hotel, an ardent supporter of CIUT, invites you to find out. Located on the ocean, minutes away from amazing beaches and the most popular national park in Costa Rica, we are the perfect, peaceful home base for your Costa Rican adventures. Come find out for yourself if this is your paradise. The welcome mat will be out for you. Visit Serenity Hotel. CostaRica.com. That is SerenityHotelCostaRica.com.
CIUT 89.5 Toronto.
K Qui dit Noël dit veiller, qui dit veiller dit conte. Mais à l'heure des réseaux sociaux, que reste-t-il de la tradition des contes de Noël? À quoi ressemble le conte contemporain? Quels sont les événements et les personnalités qui ont marqué cette année 2018? Et l'Ontario, où se trouve l'Ontario dans tout ça? On en parle tout à l'heure avec d'autres invités correspondants, entre autres professeur Stéphanie Chouinard, qui nous attend quelque part sur la planète. Mais pour tout de suite, ne partez pas. RFI.
Le journal, c'est avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. À la une de ce journal, le shutdown aux États-Unis prolongé au-delà de Noël. Aucun accord n'a été trouvé sur le financement du mur à la frontière mexicaine. Les administrations fédérales tournent au ralenti pour la troisième fois de l'année. Explication avec notre correspondant à New York. On reviendra également sur l'histoire du mur voulu par Donald Trump. Au moins 43 morts, près de 600 blessés en Indonésie. Cette nuit, un tsunami a été provoqué par l'éruption d'un volcan sous-marin entre l'île de Java et Sumatra. Un acte 6 des gilets jaunes en baisse en France. 39 000 manifestants partout en France. Ils étaient 66 000 la semaine dernière. Et direction également le Tchad où Emmanuel Macron a réveillonné hier soir avec les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et puis le football, nouveau succès pour le Paris Saint-Germain. Monaco chute encore et Lille battue pour la première fois de la saison à domicile. On fera le bilan de cette 19e journée de Ligue 1.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Hey, allô, allô. Bon, on en est où du chiffre d'affaires, là, hein? Les gens achètent des cadeaux ou pas? Bah bougez-vous, vendez-leur du rêve, des rennes, de la neige, des merneaux à la poêle, faites quelque chose! Et même moi, le patron des Galeries Lafayette, hein, président de l'APNC, hein, l'Association des Pères Noël Capitalistes. Je fais le Père Noël devant mon magasin. Hein. Bon, je ressemble plus à un vendeur d'arty, mais ça marche quand même. Ouais, et puis tout le monde me prend pour Omar du service après-vente, ça va. Oui, 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 je sais, un Père Noël noir, c'est pas crédible, d'accord. Ouais. C'est un peu comme si Francis Lalanne chantait du zouk. Oui, quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Tu m'as pris pour le... Ah merde, putain. Tu veux une PlayStation 3? T'as 500 euros sur toi, là, ou... Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Pas de bras, pas de chocolat, pas de pouvoir d'achat, pas de PlayStation 3, c'est comme ça. Allez, viens. Ouais, ouais, non mais je te laisse là, j'ai un entretien d'embauche avec un mec là pour le poste de lutin. Ouais. Mais ça existe en vrai les lutins alors? C'est cool.
Il est bon celui-là.
Bonjour.
Bonjour.
excusez-moi de vous demander ça, mais vous êtes handicapé ou...
Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, d'habitude, je fais 1m80 et je suis basketteur. Mais là, je me suis adapté pour le job, hein, tu vois. C'est... Et d'ailleurs, si on peut se dépêcher, j'ai un shooting photo après. Je suis top modèle aussi, tu vois.
C'est génial. Pour quelle marque?
Pour quelle marque? Petit bateau.
Écoutez, vous avez déjà une petite expérience avec les enfants?
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai déjà beaucoup travaillé en maternelle. Et alors, la blague que j'adorais leur faire, c'est j'attendais qu'ils dorment, je m'approchais comme ça, et puis... Ah, oh, je me fendais la gueule, c'était génial. Ah, oh, c'était le bon vieux temps.
Bah, écoutez, moi, je trouve ça génial. Vous connaissez la chanson du
oui,
magasin?
Oui, bien sûr.
Écoutez,
bien.
On se la fait pour vérifier.
Allez,
quand même.
C'est parti.
Allez, 3, 4, aux Galeries Lafayette.
On veut vous prendre votre fric.
On n'a pas de scrupules
pour prendre votre pécule.
Noël, c'est qu'un prétexte pour que l'on vous en...
Qu'est-ce?
C'est génial! Wouh! Yes!
À lundi!
À lundi! Bon, allez, les gars.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un délire.
Vous avez envie de pousser?
Faites du bruit.
Et que la fête soit avec toi. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro.
Ok, il y a plein du monde qui ont exprimé leur opinion, qui ont dit qu'ils étaient sous le choc, qui ont déchiré leur chemise.
Moi, j'en ai déchiré deux.
Pour dénoncer les coupures sauvages envers les Franco-Ontariens de notre premier ministre, Doug Ford.
Si t'as aucune idée de ce qui se passe, un protéine te l'explique.
Le 15 novembre 2018, dans le but d'économiser 3 piastres...
Ça, c'est comme le prix de 3 bières?
Le gouvernement provincial a décidé de couper d'une shot le projet de l'Université de l'Ontario français et notre commissariat au service en français.
On en a une, l'Université franco-ontarienne?
Non, pas encore, mais ça s'en venait. À Toronto en 2020.
Pourquoi à Toronto? Les francophones sont dans le nord puis dans l'est.
Oui, mais ça va changer. Le centre-sud-ouest de l'Ontario a la communauté francophone qui grossit le plus vite.
Puis les programmes universitaires à Toronto en français, c'est comme les jokes dans cette capsule-ci.
Il y en a pas beaucoup.
Puis 75% des jeunes franco du sud suivent leurs études postsecondaires en anglais.
Ça, c'est tous des francophones qu'on perd.
Puis au nombre qu'on est...
C'est pour ça que c'est grave. Bon.
Oui, madame, monsieur, vous êtes bien branchés à votre réveillon de Noël en direct sur CUT 89,5 FM en partenariat avec Radio France Internationale, nos correspondants, nos partenaires et nos radios partenaires, bien sûr. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Et oui, la lumière des plus récents événements éloquents de francophobie et l'élection de gouvernement conservateur en Ontario, Nouveau-Brunswick, le mouvement impératif français en collaboration avec ses partenaires dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et le mouvement Québec français relance la campagne médiatique unie contre la francophobie. Allez sur le site de Impératif français, d'ailleurs nous essaierons d'avoir le directeur général d'Impératif français dimanche prochain. www.impératif-français.org. Et le recul de l'enjeu constitutionnel et politique sur l'avenir du Québec, confirmé lors des dernières élections québécoises, explique en bonne partie le retour en force de l'arrogance congénitale et historique du Canada anglais à l'endroit du Québec et de la francophonie canadienne. Arrogance. Combien de francophones y a-t-il dans le monde? Où sont-ils? Et quel usage font-ils de la langue française? Où en est-on avec l'apprentissage de la langue française en Europe, en Afrique, dans les Amériques, en Asie, au Canada, en Ontario? Dans quel pays le français est-il une langue d'enseignement? Quel avenir pour la langue française en Ontario et au Nouveau-Brunswick avec les gouvernements qu'on connaît? Et oui, qu'entend-on par francophonie économique? C'est le mot, le buzz qu'on entend souvent dans nos milieux. Quels sont les médias internationaux disponibles en français? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous écoutez toujours automatiquement les médias anglophones ou francophones? Quelle place occupe le français sur Internet? Envoyez-nous vos messages. Dimanche prochain, on dévoilera bien sûr notre bilan à notre façon avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'humour. L'année 2018 aura été marquée par le départ de plusieurs géants de l'Ontario français. Crise linguistique en Ontario, comment les institutions ont formé les résistants? Quel bilan dresse notre prochain invité, professeur, politicologue et correspondante engagée, passionnée pour le fait français? Est-elle optimiste ou pessimiste pour l'avenir du français? Et en dernière minute, une question d'un auditeur curieux. que faisait votre invité en Allemagne récemment? Ah oui, professeur Stéphanie Chouinard, bonjour.
Bonjour.
Et joyeux Noël, joyeuse fête.
Et à vous pareillement.
Que faisiez-vous en Allemagne? Est-ce que c'est vrai ou c'est un montage, un trucage quelque part sur Facebook?
Non, non, c'était vrai. Pour vos auditeurs sont sérieux. J'étais là pour le travail. Donc,
pour le travail.
Oui, donc j'étais invitée par un centre d'études sur les droits des minorités dans le nord de l'Allemagne pour participer à un projet d'ouvrage qui portera sur la complétude institutionnelle. Donc,
Mais on m'a dit que vous étiez même à la porte du bureau de Mme Merkel.
C'est vrai? Ben, je suis passée par Berlin par la suite.
Ouais.
J'ai été à donner une conférence à l'Université libre de Berlin.
Est-ce qu'il ne faut pas avoir un papier spécial, une permission spéciale, un titre spécial pour pouvoir aller rencontrer la chancelière ou passer à son bureau?
Ah ben, j'ai pas rencontré Madame Merkel, j'ai même pas osé cogner à la porte, j'ai un ancien collègue qui travaille en fait au Parlement allemand, qui m'a donné une visite guidée privée, donc j'ai été très très gâtée par mon collègue qui m'a permis là, de voir un peu là, l'intérieur du Parlement.
Alors Stéphanie Chouinard, vous savez, on ne pouvait pas terminer l'année sans vous parler parce que beaucoup d'auditeurs en réclament encore et encore et encore parce qu'elle parle bien, c'est clair, succinct et surtout vous parlez en anglais, en français, on vous a vu dans les médias, c'est ça qu'il faut. Passer le message, c'est chez la communauté anglophone aussi. Ça a été une année mouvementée pour vous et on est vraiment chanceux de vous avoir et j'espère que vous serez des nôtres pendant les mois et les années à venir parce que c'est important d'avoir des catalyseurs ou des gens dans le monde des médias qui peuvent manier l'information et aussi bien la présenter.
C'est surtout important, je crois, de s'assurer qu'on ne fait pas que prêcher à notre paroisse. Donc, c'est tout à fait important d'avoir les discussions qu'on a en ce moment avec la communauté majoritaire, surtout en Ontario français, où malgré le fait qu'on a une communauté qui est vibrante et qui est assez densément populée en termes de pourcentage, et ça, ben, c'est là où le bas blesse le jour des élections, en termes de pourcentage, si on veut être en mesure de convaincre les élus du bien fondé des droits linguistiques, en Ontario, on a besoin du soutien de la population majoritaire. Et donc, d'avoir cette discussion-là, c'est élémentaire, selon moi.
Comment voyez-vous le bilan, justement, de cette année 2018? Parce que on a vécu quelque chose qu'on ne pensait pas revivre. On a connu Montfort, on a connu des crises au niveau de l'indépendance du Québec, dans les années 70, pour les gens qui étaient encore très jeunes ou qui n'étaient pas là. Mais moi, je suis très curieux. J'aime beaucoup voir la Révolution tranquille. Ça a eu un impact sur la francophonie aussi, sur la place de l'Église, la séparation de l'État, l'Église. Et aujourd'hui, on vit une crise linguistique. Mais pour moi, à mon avis, c'est bien plus que ça. C'est très profond parce que c'est une vague qui est en train de se déferler aux États-Unis, dans quelques pays en Europe, et maintenant ça attaque aussi le Canada, et on est en train, c'est nous, les minorités linguistiques et culturelles, qui sont en train de payer les pots cassés.
Oui, donc c'est certain qu'on voit une vague de populisme qui déferle, comme vous l'avez dit, c'est très évident aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, dans certains pays d'Europe aussi, où il y a des éléments plutôt inquiétants là sur les sujets politiques qui prennent de plus en plus d'espace, la droite un peu plus radicale qui crée un peu du brasse-camarade, surtout vis-à-vis justement de la crise des réfugiés. Et plusieurs commentateurs politiques doivent se demander, bon, est-ce qu'on n'a pas parlé un peu trop vite parce qu'on croyait qu'on n'allait pas vivre ça au Canada. Quand M. Trump a été élu en 2016 aux États-Unis, plusieurs personnes se sont demandé, bon, est-ce qu'au Canada, on pourrait voir une telle montée du populisme? Et plusieurs personnes disaient que non, au Canada, nous étions à l'abri. La question se pose de plus en plus, surtout au regard du fait qu'on aura une élection fédérale en 2019 et que, bon, avec l'élection de gens comme Doug Ford, qui est ouvertement populiste, des gens dans l'Ouest canadien comme Jason Kenney, qui sont extrêmement aussi bien placés dans cette mouvance-là et qui remettent en question des éléments que, en tant que minorité, nous croyons comme étant des acquis. Notamment, bon, comme on le voit avec M. Ford, les coupures qui ne cessent d'être annoncées en matière de services en France.
Oui.
Et donc là, bon, il y a fort à parier que on n'a pas fini d'en entendre parler, hein, parce que M. Ford a un autre 3 ans et demi avant les prochaines élections. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge.
Oui. Et on sent qu'il y a un petit peu un vent de dialogue, peut-être surtout chez la ministre responsable des affaires francophones, Mme Mulroney, qui est ouverte à un dialogue avec le gouvernement fédéral pour trouver une solution dans le financement de cette université pour les francophones dans la région de Toronto. Mais elle ne lâche pas prise. Hein. Elle ne veut pas nécessairement accepter qu'il y a eu tort. Parce que ce qui est vraiment dramatique dans tout ça, c'est que ces gens avaient promis aux francophones qu'ils allaient les soutenir dans leur projet et qu'ils n'allaient pas affecter. C'était mentionné en aucune part qu'ils allaient affecter dans leur nouvelle politique la communauté francophone. Donc, c'était presque du mensonge, quoi, du plagiat, n'est-ce pas?
Oui, en campagne électorale, la question avait été posée à maintes reprises, à savoir si le projet d'ouverture d'une université francophone à Toronto irait de l'avant. Et M. Ford, comme Mme Mulroney, s'était voulu très réconfortant, avait promis à la communauté que cette institution-là serait bel et bien créée dans les délais prescrits. Le commissaire aux services en français qui a vu son mandat grandement réduit n'avait jamais été mentionné en campagne électorale. Et l'un des éléments dont on ne parle pas assez souvent, selon moi, c'est que pour les communautés francophones qui, par ailleurs, vivent aussi les coupures dans les autres services. On parle des services sociaux qui sont en révision en ce moment. Il y aura probablement des coupures en santé à venir dans la prochaine année, en éducation également. Ce que ça veut dire, c'est que les francophones en Ontario payent deux fois pour les coupures qui sont mises en place par le gouvernement Ford. Ils payent en tant que citoyens qui, comme tous les autres Ontariens, ont besoin de services en santé, de services en éducation, mais payent aussi parce que leur service en français et les représentants de cette minorité-là au sein de l'État sont en train de perdre leur voix en ce moment. Et ça, c'est important de le faire comprendre à la communauté majoritaire.
Alors, c'était quand même intéressant de voir la mobilisation, le mouvement de résistance, plus de 14 000 personnes présente des centaines de drapeaux verts et blancs déployés. Le « nous sommes, nous serons » entonné par des foules entières aux quatre coins de la province. Quand j'ai parlé un peu à certains fonctionnaires et à certains amis qui sont très, très ancrés dans le domaine d'organismes communautaires et qui des fois fréquentent ou doivent rencontrer ou desservir la communauté francophone, ils n'étaient pas au courant aucunement de cette mobilisation, de cette journée de protestation, et même certains politiciens en Ontario n'étaient pas au courant. Ou ceux qui étaient au courant, eh bien, ils sont restés chez eux, et puis ils ont regardé d'autres chaînes de télévision. Et pour eux, c'est un chiffre qui n'est pas important pour eux. Parce que souvent, ces politiciens, un peu comme Trump aux États-Unis, c'est de voir le nombre de personnes qui participent à des événements et surtout des mouvements de protestation, de mobilisation. 14 000 personnes, cher ami, est-ce que c'est un chiffre quand même qu'il ne faut pas prendre en considération au sérieux, d'après vous?
Bien, si on regarde la mobilisation qui avait eu lieu pour Montfort, on parlait d'un peu plus de 10 000 personnes qui s'étaient mobilisées à la fin des années 90 là, pour la grande manifestation SOS Montfort. Cette fois-ci, on a vu 14 000 personnes. Par contre, ce qu'il faut se souvenir avec SOS Montfort, c'est que au final, malgré la mobilisation populaire, ça s'est réglé devant les tribunaux. C'est la Cour d'appel de l'Ontario en 2001 qui a dit non, désolé, le gouvernement n'a pas pris en compte ses obligations de respect des droits des minorités dans son interprétation du mandat de la commission qui était en charge de réviser les services de santé dans la province. Et donc, l'hôpital Montfort, son mandat pour protéger promouvoir la vitalité de la communauté francophone n'avait pas été pris en compte. Donc, malgré une grande mobilisation populaire, à cette époque-là, le gouvernement de Mike Harris n'en avait pas fait grand cas. Ça avait été les tribunaux, finalement, qui avaient maintenu les droits de la minorité franco-ontarienne. Il semblerait que cette fois-ci, la tendance va se maintenir. On sait qu'il y a un litige qui se prépare visant le maintien du financement pour l'Université de l'Ontario français pour remettre en question la remise en cause du mandat du commissaire aux services en français. Donc, les gouvernements, malgré le fait que pour la communauté franco-ontarienne, ce soit des chiffres qui soient significatifs et même admirables de voir 14 000 personnes sortir dans les rues, pour le gouvernement, c'est pas assez significatif pour remettre en question leur décision. Et donc là, on se tourne encore devant les tribunaux.
Et j'ai d'autres rumeurs. Malheureusement, je ne veux pas être le Père Noël qui annonce de mauvaises nouvelles. Ah oui, je rappelle aux gens que je suis avec Stéphanie Chouinard, auteur, chroniqueur, radio-télé, correspondant de Pot Pourri Show. Professeur d'ailleurs, c'est pas l'université,
au collège, c'est au collège Royal.
Voilà, c'est à Kingston, plus précisément. D'ailleurs, vous avez une page dans les deux langues officielles, bravo, c'est très bien. Alors, oui, on me dit que le gouvernement de l'Ontario, nous avons de très bonnes sources, pense même peut-être à modifier la loi sur les services en français afin de dégager un peu tous ces fonctionnaires bilingues. Parce que vous savez, il y a des postes désignés pour desservir la population francophone dans certains secteurs. Et comme ça se passe au Nouveau-Brunswick, vous avez peut-être suivi l'actualité de cette semaine. Et donc, M. Ford est en train de... Parce qu'il y a un groupe autour de lui, là. Il y a des groupes extrême droite, ultra droite, qui sont en train de faire pression sur lui. Et il trouve que les anglophones unilingues n'ont pas accès à tous les postes, n'ont pas... Ils ne sont pas égaux, si vous voulez, devant pour accéder à des postes dans la fonction publique. Et donc, il y a des gens qui sont en train de lui conseiller, eh bien, peut-être il faudrait modifier la loi sur les services en français. Et donc, peut-être ça va réduire le nombre de fonctionnaires bilingues dans la machine de la province de l'Ontario. Comment vous réagirez à ça?
C'est inquiétant si ces rumeurs-là s'avèrent. Il est certain que, le processus de désignation des différentes régions en Ontario où la population francophone est en mesure d'obtenir des services, c'est vraiment là des services de première ligne. Et les communautés francophones dans les différentes régions se mobilisent depuis de nombreuses années dans certains cas pour être en mesure d'obtenir ces désignations-là. Et donc, si le gouvernement Ford décide de mettre la hache dans ces désignations ou de réduire, par exemple, d'augmenter le pourcentage de francophones nécessaires pour obtenir le statut de région désignée, par exemple, pour rendre cela plus difficile sur le terrain d'obtenir des services en français. C'est la population francophone qui va payer les frais de cette réduction de services-là au premier chef.
Et c'est une façon aussi de tranquillement de faire disparaître une communauté, parce qu'on commence à couper les services. Au niveau de la culture, il faut bien admettre que ce n'est pas seulement les services en français, mais il y a beaucoup de programmes pour les personnes les plus vulnérables en Ontario qui ont été affectés par les coupures de ce gouvernement.
Absolument. On parle d'une augmentation des critères pour obtenir de l'aide à l'emploi, une réduction des services aux personnes avec des handicaps. On a vu la semaine dernière une réduction dans les programmes qui cherchaient à donner des emplois à des jeunes à risque, ce qui m'a en fait grandement surpris parce que M. Ford, durant sa campagne, avait voulu s'attaquer au problème des armes à feu et des crimes avec les armes à feu. On sait que cette année à Toronto, on a brisé des records malheureux au niveau des décès à cause des gangs de rue et des crimes organisés. Et donc, ces programmes-là qui existaient dans le milieu de l'éducation visaient justement à empêcher les jeunes de rentrer dans le crime organisé.
Alors, dans, les, oui, dans les conseils scolaires francophones, je sais qu'ils sont en émoi parce que beaucoup de ces argents servaient justement à intégrer la population immigrante et aussi des jeunes en difficulté. Et on doit, dans certains conseils scolaires, mettre à pied les gens, peut-être pas permanents, mais en tout cas les gens à contrat qui étaient dans ces programmes. On parle d'une coupure très, très importante qui va avoir quand même des conséquences incroyables dans ces conseils scolaires, mais aussi sur une population vulnérable et des jeunes, encore une fois.
Exactement, exactement. Et c'est fait au détriment, comme vous le dites, des plus vulnérables, alors que en termes fiscaux, là, ces programmes-là vraiment représentaient là, une infime partie du budget provincial. Et donc, on n'a pas fini d'entendre parler de coupure, hein, parce que si M. Ford est réellement sérieux lorsqu'il dit qu'il veut s'attaquer au déficit de la province qui s'élève à peu près 12 milliards de dollars, eh bien, les programmes qu'il est en train de couper, en fait, n'auront pas un grand effet sur la réduction du déficit. C'est une autre promesse brisée, d'ailleurs, parce qu'en campagne électorale, M. Ford avait promis à maintes reprises que personne ne perdrait son emploi dans la fonction publique ontarienne.
Et là, ils sont plus de 10 000 là, qui vont partir.
Exactement. Oui. Donc, il y a des répercussions sérieuses.
Exactement. Alors, il faut rappeler aux gens que l'Association internationale des commissaires linguistiques a adressé une lettre au premier ministre ontarien Doug Ford pour lui demander de revoir sa décision concernant le commissariat au service en français, bien que l'association reconnaisse que chaque pays ou province a ses particularités, son président insiste sur le caractère universel de certaines pratiques exemplaires en matière de promotion des langues, de la minorité et de la protection des droits linguistiques. Ça, j'ai trouvé ça très bien de voir une association internationale adressant une lettre au Premier ministre Ford. Est-ce que nous, les francophones, on est... pour être politiquement correct, donc, on ne montre pas tellement nos griffes en public, parce que je sais, en coulisses, quand je parle avec certaines personnes, y compris des leaders de la communauté francophone, que ce soit à Sudbury, à Ottawa ou à Toronto, ils sont vraiment fâchés de ce qui est en train de se passer. Mais en public, quand je les invite, tout le monde, ils font très attention, ils ont peur de parler. Est-ce que d'après vous, Stéphanie, on devrait... Ce mouvement de résistance devait pousser un peu la note. Je ne dirais pas être un peu comme les gilets jaunes font en France, mais est-ce qu'on ne devrait pas pousser la note un peu plus haut?
Ouais, donc c'est une ligne qu'on doit faire attention de ne pas traverser, parce que les manifestations du 1er décembre avaient crié de la casse. Comme puisque vous venez de mentionner les gilets jaunes, on sait très bien que dans plusieurs régions en France, notamment à Paris, il y a eu énormément de bris. À ce moment-là, pour une minorité comme la minorité francophone, qui est d'ailleurs très pacifique, je ne peux pas m'imaginer une manifestation qui découlerait là, comme ça, avec des vitres cassées ou d'autres types de casses. Il faut faire attention de garder l'opinion de la majorité de notre côté. Et donc, en gardant une position pacifiste et quand même respectueuse de l'institution qui est la législature, à ce moment-là, on se place quand même comme une minorité qui comprend ce qu'est le jeu politique. Par contre, il est certain que pour le moment, toutes les interventions qui ont eu lieu en public ou derrière des portes closes. D'ailleurs, on sait que M. Carole Jolin, par exemple, le président de l'AFO, s'est assis avec Doug Ford à la fin novembre et ça n'a absolument rien donné. On voit là, qu'on se rive en mur. C'est là où il semblerait que la seule option restante en ce moment, ce soit de se présenter devant les tribunaux.
Mais alors, nous avons reçu aussi, il y a un intérêt hein, pour ça, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en disant, vous avez peut-être entendu le cas de Michel Tribala, Christophe Gulli, Stéphane Smith, des chercheurs reconnus, se voient marginalisés par l'université, ça se passe en Europe, lorsqu'ils touchent à des thèmes comme l'islam et l'immigration, on reproche à leur thèse de faire le jeu des discours politiques d'extrême droite. Alors, il faut, vous avez raison, avoir un équilibre dans tout ça. J'aimerais aussi, en 2019, si cela vous intéresse, qu'on parle un peu de l'évolution de la communauté francophone en Ontario, parce qu'il y a quand même des statistiques, des chiffres, des études qui démontrent qu'il y a un déclin dans certaines régions. Et comment mobiliser les francophones à être fiers de leur langue, de leur culture, à accéder à des services en français, exiger des services en français, parce que ça, c'est très important si on veut continuer la lutte et si on veut continuer à exister. Il faut qu'on démontre nos couleurs, n'est-ce pas?
Effectivement, et pour une communauté comme les franco-ontariens, c'est une lutte au quotidien.
En effet. Alors, pour terminer, je ne vais pas vous demander quel plat vous vous apprêtez pour demain soir, ou qu'est-ce que vous allez faire, où vous irez, avec qui vous irez, vous sortirez, mais on est intéressé de savoir quelle est la personnalité, d'après vous, qui vous a marqué un peu en Ontario, au Canada ou dans le monde. Est-ce qu'il y a des figures là qui vous arrivent en tête?
Est-ce que je peux en choisir deux?
Oui, oui, oui.
Eh bien, du côté plus local, et je crois que ma voix va se joindre à plusieurs autres personnes. La personne qui m'a marqué cette année, c'est Amanda Simard, qui a décidé de se tenir debout pour sa communauté et sa circonscription au sein du caucus progressiste conservateur, qu'elle a finalement décidé de quitter suite aux coupures au service en français. Et à l'international, je ne serais pas très surpris de l'entendre, je choisirais Angela Merkel qui a franchement là, su tenir tête à un discours de plus en plus radical qui remet en question l'ouverture avec laquelle l'Allemagne a accepté des millions de réfugiés qui a décidé de tirer sa révérence. Hein. On sait qu'elle ne se présentera pas aux prochaines élections, mais qui, pendant de nombreuses années, s'est placée comme l'une des seules voix éclairantes en Europe vis-à-vis de la crise des réfugiés.
Alors, Stéphanie Chouinard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout le bonheur du monde, voilà.
Oui, du bonheur, et à vous pareillement pour votre super.
Alors, la chorale vous chante une petite chanson, là, tout le bonheur du monde. Que le soleil éclaircisse vos quotidiens. Merci beaucoup et bonne année. Joyeuse fête. On se parle en 2019. Merci, merci mille fois pour tout ce que vous faites. Au revoir.
Au revoir.
CIUT 89.5 Toronto.
Ho ho, DJ Bota et moi, le Père Noël, vous souhaitons un joyeux Noël. Ho ho ho, Intermix, 50% musique, 50% cadeau, 100% Noël. Intermix, la radio officielle du Père Noël.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Le tour du monde avec nos correspondants, deuxième et dernière édition, dimanche prochain, 30 décembre. À la veille du jour de l'an, comme chaque année, la rédaction fait un retour sur l'actualité des 12 derniers mois. Une émission qui s'annonce colorée, humoristique avec nos correspondants, des invités surprises, de nombreux DJ, la compile des Gilets jaunes pour assurer une ambiance ultra festive. Dimanche 30 novembre 2018, de 11h à 13h sur www.cut.fm ou CIUT 89.5 FM. Dernière émission de l'année, rétrospective de la francophonie ontarienne et du monde en musique. Tour du monde de nos correspondants, deuxième et dernière édition, dimanche prochain, 30 décembre, à ne pas rater, à écouter sans sans aucune modération. Et toute l'équipe de Popourri Show vous souhaite de joyeuses fêtes et merci de votre fidélité. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a une activité qui se déroule demain sur notre territoire. C'est un événement annuel, le Réveillon des Orphelins, French Fridays, qui vous donne rendez-vous le 24 décembre. On en parle tout à l'heure avec notre ami et invité Zefred, qui est auteur, réalisateur, producteur franco-canadien demeurant à Toronto. Et je vous rappelle qu'il se passe beaucoup de choses en 2019. Mon cher ami Sloan, nous allons recevoir une Française qui va venir à Toronto exclusivement pour vous rencontrer. Et elle va organiser, elle va nous donner une conférence organisée par le CREFO, dont le thème « Questions plurilingues à l'école en France » présentée par Nathalie Auger. Elle est professeure des universités en sciences du langage, linguistique et didactique. Elle sera des nôtres le 6 janvier prochain. Dans un instant, nous allons faire un bilan en Afrique pour parler un peu de ce décalage qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord. Et je pense que nous avons un invité de marque qui est avec nous, Thomas Mbassa, qui est de l'Alliance française et membre du club RFI. Bonjour.
Oui, bonjour les amis de Toronto. Bonjour.
Oui, quelle heure est-il chez vous?
Ah là, certainement chez nous, il est soir. Hein. Ah oui. C'est pratiquement vers 20h comme ça.
Oui. Alors, l'Afrique est en train de changer. Hein. Certains considèrent ces changements comme des défis, mais il faut les voir comme des opportunités pour d'autres. Alors, on sait qu'en Tunisie, par exemple, il y a eu 2019, nous dit que c'est l'année de tous les enjeux. Il y a aussi, en Côte d'Ivoire, on cherche son candidat pour 2020. République démocratique du Congo, eh ben, on a annulé ou reporté l'élection qui devait avoir lieu aujourd'hui. D'ailleurs, on peut parler un peu quel bilan économique pour Kabila. On en parle la semaine prochaine. Mais à la veille du nouvel an, cher ami, quel est votre regard sur l'année 2018 et surtout votre regard sur l'Afrique? Allô, vous êtes là?
Oui, je suis là, ouais.
Oui. Est-ce que vous avez entendu ma question? À la veille du nouvel an, quel est votre regard sur l'année 2018?
Oui, bien entendu, je suis d'abord très content pour l'invitation que vous m'avez offerte pour participer à ce grand débat. C'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, il y a une détermination de la jeunesse africaine, d'abord dans les processus de développement. Lorsqu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'investissent aujourd'hui dans la promotion des nouvelles technologies, lorsqu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes en Afrique qui se mobilisent, n'est-ce pas, pour participer dans le processus de reconstruction des pays africains, à l'occurrence ici en Ouganda, des jeunes comme un député qui s'appelle Bobi Wine qui s'investit éminemment pour la participation de la jeunesse dans la politique. Il y a encore beaucoup de choses pour la jeunesse. Mais ce qui est regrettable, c'est ces jeunes qui sont morts dans la Méditerranée pour le but d'aller en Europe, dans les pays occidentaux. Ce sont des éléments sur lesquels nous, en tant que jeunesse africaine, nous déplorons et nous disons qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, mais il faut déplorer aussi... c'est vrai qu'il y a l'insécurité, mais l'insécurité n'est pas dans tous les continents. Ce qu'il faut déplorer, c'est ces jeunes qui, jour et nuit, passent, du moins, sont morts, n'est-ce pas, dans la Méditerranée. Mais il y a encore beaucoup de choses et beaucoup d'opportunités au niveau de l'Afrique. En fait.
Alors, justement, j'aimerais rappeler aux auditeurs que, selon plusieurs rapports, on parle de plus en plus d'une explosion démographique de la jeunesse en Afrique avec plus de 200 millions de personnes entre 15 et 24 ans. L'Afrique a déjà la plus grande population de jeunes dans le monde et les tendances actuelles indiquent que ce nombre va doubler d'ici 2045. Est-ce que ce sera une bombe démographique ou un dividende démographique. D'ailleurs, cher ami Thomas, si on n'arrive pas à trouver assez d'emplois pour ces jeunes en Afrique, mais que vont-ils devenir?
Justement, c'est une très bonne question. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais lancer une opportunité de lancer un message à tous nos dirigeants africains qu'il faille qu'ils puissent créer, n'est-ce pas, des mécanismes pour l'emploi, pour l'emploi auprès de la jeunesse africaine. Je voudrais également lancer un appel aux donateurs dans les pays occidentaux et les pays européens qu'ils puissent s'investir à la jeunesse dans le sens que les pays européens ou les pays occidentaux ne viennent pas seulement avec des experts qui viennent de l'Europe ici et là, mais qui viennent aussi avec l'intention de pouvoir former cette jeunesse, parce que, dit-on, cette jeunesse africaine constitue l'avenir de demain. Et que donc, si nous, jeunes Africains, nous sommes formés par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à des capitaux, comment utiliser, n'est-ce pas, des capitaux, parce que là, le tout premier capital, c'est d'abord l'intelligence, c'est d'abord l'homme. Et que si cet homme est formé, informé, bien entendu, je pense que l'Afrique, moi, tel que je le vois, sera le paradis de tout le monde, parce qu'il y a tout en Afrique. Lorsqu'on voit, du moins, les minerais qu'il y a, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a des beaux parcs, ainsi que des beaux sites à visiter en Ouganda, lorsqu'on voit, on voit des beaux sites touristiques qu'on peut visiter au Kenya, tout comme en Tanzanie, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'emplois que nous, jeunes, nous pouvons créer, mais sauf que il faut qu'il y ait l'investissement et que cet investissement doit être fait auprès de la jeunesse, mais il faut qu'il y ait aussi cette jeunesse, soit du moins, il faut c'est des capitaux financiers pour que tous ces projets ne soient plus aboutir à bon port. C'est très important.
Alors, il y a aussi un grand nombre d'Africains qui sont en train de quitter les campagnes pour aller vivre en ville. En 2010, environ 36% de la population africaine vivait en zone urbaine. Il est prévu que le nombre passera à 50% et même 60% d'ici 2030 et 2050. Donc cet exode exercera d'énormes pressions, à mon avis, sur les villes et les cités. Donc là aussi, ça va poser des questions pour ces résidents en zone urbaine. Ils auront besoin de logements décents, d'électricité, de transport, de services sanitaires appropriés. Mais la croissance des villes africaines crée aussi des conditions pour catalyser la transformation structurelle des économies des pays, n'est-ce pas?
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais d'une part, hein, vous avez raison dans la mesure où vous êtes dans les pays où tout le pays est en sécurité. Mais lorsque je vois certains pays, n'est-ce pas, de l'Afrique, dont les pays en conflit, les pays en guerre, dont la République démocratique du Congo, qui est voisin en Ouganda. Ouganda, là où je suis basé. On se rend compte qu'il y a des déplacements ou des exodes rurales qui sont dus au fait qu'il y a l'insécurité dans les villages. C'est vrai, lorsqu'on voit les pays comme la RD Congo, il est très difficile que la population, n'est-ce pas, ou les villageois restent au village dans la mesure où il y a des rebelles. Et dans la mesure où il n'y a pas moyen de faire de l'agriculture, il n'y a pas moyen de cultiver son champ parce qu'il y a encore des rébellions, des gens. Lorsque je vois un exemple piquant de l'Est de la République, on parle aujourd'hui d'un village qu'on appelle Beni qui est l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a d'énormes rebelles qui sont en train de massacrer des villageois. Il y a lieu que ces villageois quittent les villages pour aller s'installer en ville. Mais d'autre part, il faut le dire aussi, il y a dans des pays où il y a la sécurité. Prenons l'exemple de l'Ouganda, où il y a la sécurité dans tous les pays. Mais on se rend compte que, comme vous venez de le dire, qu'il y a des jeunes qui quittent les villages pour aller s'installer en ville, pensant que c'est dans la ville qu'ils vont avoir une meilleure vie, c'est dans la ville qu'ils vont avoir de meilleures conditions. Et pourtant, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir visiter presque tous les coins et les recoins du pays. C'est un beau pays, l'Ouganda, il faut que vous le visitiez. Il y a beaucoup de choses à faire. Les jeunes peuvent aller cultiver, il y a la paix. Les jeunes peuvent, élever, faire de l'élevage. tout en ayant l'espoir aussi d'étudier.
Alors Thomas, nous devons vous laisser parce que nous avons un problème d'horaire, mais nous irons faire une émission en direct chez vous si vous nous invitez. Nous sommes partants, hein. Nous sommes une petite équipe de trois, alors on organisera tout ça hors les ondes. Alors on vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci mille fois. Cette fois-ci, ça y est, c'est passé. Le message est clair. J'espère qu'en 2019, on aura plus d'occasions de vous interviewer ainsi que vos collègues. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne et heureuse année à vous et toute l'équipe Alliance Française et aussi Club RFI en Ouganda. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci, je vous invite pour la francophonie bientôt. Allez, venez-vous la francophonie, s'il vous plaît.
On va pas non plus se faire saigner du nez. On enchaîne avec la quatrième position. Un artiste non sans talent puisqu'il s'agit de Gramour. Il vous a fait mouiller le t-shirt cet été avec Rosa. Et il revient armé d'une doudoune cet hiver avec son hit réadapté, Sapin du Bled.
Mon petit sapin de la Noël, t'es aussi beau que Bertrand de la Noé. Je te dis c'est vrai, je les aime de trop. Tes petites épines vertes et tes abricots, j'avais mis des guirlandes.
Et oui, afin de faire profiter de l'euphorie qui accompagne les fêtes de Noël aux enfants défavorisés, aux personnes les plus vulnérables de nos collectivités, de notre société, des gens au cœur d'or, comme notre ami qui a un cœur en or, Sloan Ballant. Merci beaucoup d'être là. Il y avait du monde hein, aujourd'hui. Ah, on est vraiment sans l'esprit de la fête. Alors, encore une fois, on voit qu'il y a des gens qui donnent de leur temps, de leur vie, sont passionnés par la communauté, là où ils vivent. Et ils organisent des activités pour ensoleiller de nombreux cœurs, les cœurs de ces personnes vulnérables. Lydia Ludic a une fois de plus organisé l'arbre de Noël pour les enfants orphelins des associations Fondavo et la Maison de la Providence, et pour les enfants démunis des associations Assi Togo, CRIPS et la Pouponnière Sainte-Claire au Togo. Merci pour ces messages. On reçoit des messages un peu partout à travers la planète et la semaine prochaine, justement, on aura l'occasion de poursuivre la discussion avec nos correspondants en Afrique, mais aussi dans les îles de l'océan Indien et dans les Antilles. Et plus près de nous, comme tous les ans, le French Friday prend soin des abandonnés, des pauvres sans famille, des gens qui vivent seuls, tout tristes, au réveillon de Noël en organisant, rien que pour vous, madame, monsieur, une super soirée. Tous ensemble, 24 décembre, une soirée, il y a un plat, un menu à déguster ici à Toronto, oui, au cœur de Toronto. Zelfred qui est un auteur, réalisateur, producteur franco-canadien demeurant à Toronto, chroniqueur pour l'Express de Toronto, qui a déjà passé à notre antenne à quelques reprises, qui est avec nous. Bonjour Zelfred.
Bonjour.
Alors, une fois de plus, vous allez faire des heureux demain soir.
Ben, j'espère, écoutez.
Ouais. Alors, c'est une tradition hein, maintenant pour French Friday.
Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. J'appelle ça plus un besoin qu'une tradition.
Oui. Alors, parlez-nous un peu le processus. Il faut acheter quelque chose? Comment devront-on s'habiller? Les gens me posent des questions. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un d'autre? Il faut s'inscrire?
Alors, déjà, il faut commencer par s'inscrire. C'est gratuit, mais juste pour nous donner une idée du nombre de gens qui seront là,
oui,
pour qu'on puisse réserver la table au restaurant. Ou les tables, selon le nombre de gens. Ensuite, c'est un repas dans un restaurant coréen, puisqu'il n'y a pas beaucoup de restaurants de foi catholique ou chrétienne qui sont ouverts. Nous, on opte directement pour les gens qui sont ouverts tout le temps. Et donc, on va voir les gens, les Asiatiques, et on va à notre restaurant habituel, qui s'appelle le Korean Village à Koreatown à Toronto. Et ils ont une grande salle avec plein de tables. Et donc, pour nous, c'est pratique parce que quand il y a un peu plus de gens, ben, on a toujours des tables en plus qu'on peut rajouter. Mm-hmm. Et une fois inscrit, bah, il faut juste venir au restaurant. Il n'y a pas de, code d'habillage.
Il y a échange de cadeaux. Il y a un petit échange de cadeaux, non?
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est après. Le truc, c'est comme c'est le dîner du réveillon de Noël et qu'on fait ça pour les gens qui n'ont pas de famille, qui sont un peu tout seuls, etc. On veut quand même garder l'esprit de Noël et pas juste faire un repas comme ça. Donc on fait un petit échange de cadeaux à la Secret Santa pour citer les traditions anglophones. Mmh. Et donc on demande que les gens viennent avec un petit cadeau de 5 ou 10 dollars maximum qu'on met dans le pot commun et à la fin du repas, il y a quelqu'un qui va faire un tirage au sort pour attribuer tous les petits cadeaux qui sont là aux gens qui sont présents.
Et soyez créatifs, hein, quand vous achetez des cadeaux, soyez créatifs. Il faut ce soit un peu rigolo, un peu sens de l'humour. Hein. Il faut avoir le sens de l'humour.
C'est ça, il faut que ça souligne la soirée. Voilà. Donc le but, c'est de faire en sorte que les gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, qui ne connaissent pas grand monde, qui n'ont pas de famille, plutôt que de passer Noël tout seul devant Netflix, viennent avec nous et passent une soirée.
Mais Zéphred, vous serez... Voilà. Pas surpris parce que sans doute vous savez. Moi, je rencontre toujours des gens seuls à chaque année qui ne savent pas quoi faire parce qu'il y a des gens qui sont très angoissés. Hein,
pendant oui, c'est pour ça qu'on le fait tous les ans.
Oui.
Et des fois, il y a des gens qui viennent qui, l'année suivante, ne viennent plus parce qu'ils ont rencontré du monde pendant l'année, etc. Donc, mais il y a toujours des nouveaux arrivants, il y a toujours des gens qui sont tout seuls, il y a toujours des gens qui, à la dernière minute, leurs plans ont été annulés. Donc voilà, donc c'est pour. Pour ces gens-là, ça reste pas forcément tout seul à ce moment-là, qui est quand même une période où psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui sont plus faibles et proches de la dépression.
Et en plus, on parle français. On peut rencontrer des gens qui parlent français, qui parlent notre langue, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. Donc, en général, le French Friday, toute l'année, c'est vraiment pour les gens qui veulent pratiquer leur français et passer une soirée entre francophones et francophiles. Pas cette soirée-là. Cette soirée-là, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Oui, alors donnez-nous un peu le lien pour accéder au site de réservation.
Le plus facile, c'est d'aller sur Facebook et de trouver le lien qui s'appelle Réveillons les orphelins.
Réveillons des orphelins, très facile.
Voilà.
Et alors, l'année dernière, quelle était la réaction? Je sais, vous en faites pas un sondage, l'évaluation après l'événement, mais les gens, quand même, doivent vous partager un peu leur coup de cœur ou leur coup de gueule ou ce qu'ils ont
aimé. Les gens qui étaient là avaient l'air contents.
Ouais.
Moi, ça me suffit, je vais pas chercher plus loin.
Oui.
Comme c'est pas un business, j'ai pas besoin de faire des analyses marketing derrière. Voilà. Mais les gens qui étaient là avaient l'air très contents. On a passé une bonne soirée et puis voilà.
Oui. Alors, on vous félicite encore une fois. C'est 24 à son. Demain soir, hein. Mon Dieu, mais j'ai rien magasiné encore. J'ai pas fait mes achats. Est-ce que les magasins sont ouverts aujourd'hui?
Oui. Ah oui, bien sûr. Vous vous doutez bien.
Alors, c'est demain soir au Korean
Village.
Et c'est sur la rue Bloor, pas très loin de Bathurst.
Voilà. Ouais, c'est 628 Bloor Street West.
628.
C'est à peu près au milieu entre Bathurst et Christie.
Oui. Alors, on vous félicite. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'on ait plein de gens souriants.
Oui.
Voilà.
Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout, joyeux Noël, bonne et heureuse année. Venez nous voir l'année prochaine et parlez-nous un peu de toutes vos activités de French Friday. Cela nous fera bien plaisir. Et merci pour le travail que vous faites. J'espère que vous allez faire des heureux demain soir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, mesdames, messieurs, voilà, nous avons fait un tour du monde avec professeur Stéphanie Chouinard, à qui nous disons bien merci, et professeur Nicolas D'Ambrosio, Omed Alami. Première intervention à notre émission aujourd'hui. Thomas Mboussa de l'Ouganda et Zéphred, ici à Toronto, qui vous invite à aller réveillonner, surtout les personnes qui sont seules demain soir. DJ Devera, Sloan Ballant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Merci beaucoup, Sloane, d'avoir été là tout au long de 2018. Vous et votre famille, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. C'est pas fini, hein? On continue. Merci.
Seulement parfois, je respecte que ça suffit.